Pas de fusil dans la nature, les réponses aux chasseurs. Voilà le dernier livre publié par Pierre Rigaud, naturaliste indépendant. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté l'invitation d'Alpe 1 pour le 8h30. On vous connaît car vous avez mené de nombreuses actions dans les Alpes du Sud, notamment dans les Hautes-Alpes, pour défendre le loup. Aujourd'hui, c'est à la chasse que vous vous attaquez, un pan patrimonial et traditionnel français. Vous en avez conscience?
Ah oui, complètement. D'ailleurs, on voit les réactions qui sont toujours sur ce terrain-là, comme si il fallait défendre la chasse, rien que par le fait que c'est une tradition. On dit c'est pas un bon argument. C'est pas parce que c'est une tradition qu'il faut continuer absolument à le faire.
Alors, la chasse, un désastre écologique, c'est ce que vous dites dans votre livre. La préface est signée de Nicolas Hulot, l'ancien ministre de la Transition écologique, qui a été un moment porteur de la réforme de la chasse en 2018. Une réforme qui a permis de diviser le prix du permis national par deux et de mettre en place une gestion adaptative pour remplacer la liste figée d'espèces chassables. Ça n'est pas un peu antinomique d'avoir à la fois un livre contre la chasse et Nicolas Hulot?
Ah, moi je suis très content que Nicolas Hulot ait accepté d'écrire la préface. Au départ, figurez-vous, il était un petit peu réticent dans le principe, et puis il a lu le livre, et il le dit d'ailleurs dans sa préface, il a trouvé que c'était documenté, que c'était objectif, que c'était pertinent, et c'est pour ça qu'il a accepté de faire la préface. Mais il dit même dans la préface que lui, il n'a pas exactement le même angle que moi, en effet. Donc Nicolas Hulot et moi, on n'est pas tout à fait sur la même ligne.
Lui n'est pas contre absolument la chasse.
C'est ça, il fait la différence entre, en gros, si je simplifie, entre certaines formes de chasse qu'il estime respectueuses et puis d'autres contre lesquelles il s'oppose, auxquelles il s'oppose. Mais moi, j'essaye d'être plus, comment dire, plus radical, disons le mot, ou plus précis à mon avis, dans le sens où toute forme de chasse aujourd'hui est devenue totalement anachronique, en fait. S'amuser à tuer des animaux, c'est quand même de ça qu'il s'agit. Je pense que c'est une activité qui n'a plus sa place dans la société actuelle.
Alors, vous l'écrivez, hein, les chasseurs ne sont pas les premiers écologistes de France. Non, la chasse ne protège pas la nature. Et pourtant, c'est ce que l'on dit de la chasse. La chasse permet la régulation des espèces. On peut parler des Hautes-Alpes, mais on peut parler aussi, par exemple, de l'Ardèche, où les sangliers sont redoutés dans les exploitations, dans les terrains, dans les terres.
Oui, c'est l'argument qui est souvent mis en avant par les chasseurs, celui de leur rôle autoproclamé, en fait, de régulateur, en particulier du sanglier. Alors déjà, il faut savoir que le sanglier, que ce soit dans les Hautes-Alpes ou même de façon générale en France, c'est une cible minoritaire des chasseurs, hein. La totalité des sangliers tués à la chasse, c'est même pas 2% des animaux tués à la chasse. Déjà, pour toutes les autres espèces, il n'y a vraiment pas d'argument pour dire qu'il faudrait les réguler. Et si on prend le cas du sanglier qui cause des dégâts, c'est vrai, hein, dans les Hautes-Alpes comme ailleurs, sur les cultures, sur les prairies, les sangliers sont devenus beaucoup plus nombreux aujourd'hui qu'il y a quelques décennies. Mais il faut se rappeler que c'est en partie dû aux chasseurs eux-mêmes, par le fait qu'ils ont lâché des sangliers dans la nature à une certaine époque. Aujourd'hui, c'est interdit. Alors, ça se fait que de façon très marginale parce que c'est des cas illégaux. Mais ça a été fait beaucoup avec des sangliers croisés avec des cochons, des sangliers nourris dans la nature, tout un tas de pratiques visant à augmenter artificiellement les populations de sangliers. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un problème que les chasseurs eux-mêmes n'arrivent pas à régler. Malgré les milliers de sangliers qu'ils tuent dans chaque département, ben, ça suffit pas à enrayer l'augmentation des populations. Mais c'est eux qui ont créé le problème au départ. Donc à mon avis, il faudrait voir le dossier de façon différente, arrêter de leur confier toujours la gestion de ce dossier parce que ça ne fonctionne pas.
Mais cette gestion justement cynégétique, elle est gérée par la préfecture, les préfectures de département. Il y a des quotas qui sont établis selon les espèces. Tout a l'air d'être quand même assez cadré.
Oui et non, à la fois c'est assez cadré, mais le préfet il fait que valider des plans qui sont en fait produits par les chasseurs eux-mêmes. C'est la fédération de chasse qui décide combien d'animaux ils vont chasser, et puis le préfet met son cachet là-dessus. Mais par exemple, si on prend le schéma départemental de gestion cynégétique des Hautes-Alpes, il est truffé de ce mot qui revient tout le temps, c'est ce qu'ils appellent l'équilibre agro-silvo-cynégétique, un terme qui scientifiquement n'a aucun sens, ça ne veut strictement rien dire. Et ça permet de justifier, par exemple, que dans les Hautes-Alpes, il faudrait faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de chamois. C'est-à-dire, pas trop de chamois dans les montagnes des Hautes-Alpes, enfin des Alpes du Sud, ça n'a pas de sens. Les chamois, il y en a relativement peu, en fait, même si c'est une espèce commune, et relativement peu par rapport à ce qu'il pourrait y en avoir. Et c'est pareil pour plein, tout un tas d'autres animaux. Donc on est toujours sur la peur d'une espèce de prolifération qu'il faudrait contrôler, mais c'est juste pour justifier le fait de chasser, hein, ni plus ni moins.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de la chasse et notamment de la chasse à la glu. C'est l'une de ces formes que vous dénoncez. Il y en a d'autres aussi que vous mettez en avant qui sont pour autant méconnues du public.
Déjà, l'industrie de l'élevage du gibier, des éleveurs de gibier élèvent des millions d'animaux à l'échelle nationale et en relâche. Dans les Alpes du Sud comme ailleurs, on voit des faisans au bord des routes, là, en ce moment, qui cherchent leur grain. Ils ont passé les premières semaines de leur vie dans un hangar et une volière avant d'être transportés en caisse et lâchés. Un animal sur quatre qui est tué à la chasse, il provient d'un élevage. Il y a des formes de chasse qui sont, par exemple, spécifiques à la montagne et qui sont aberrantes sur un plan écologique parce que les espèces en question sont menacées. Si on prend les lagopèdes alpins, les tétralyres, les lièvres variables qui sont menacées pour essentiellement d'autres raisons que la chasse. Hein. C'est le réchauffement climatique, c'est le dérangement en montagne, le ski en hiver par exemple. Quel intérêt de rajouter une menace en les flinguant ?
Vous le dites, il faut gérer les interactions entre eux, les animaux, et nous, c'est-à-dire ?
On a vraiment de façon très ancrée dans la culture, dans les habitudes, cette vision d'une gestion par le fusil, où il faudrait toujours que l'être humain on régule les autres espèces qui proliféreraient, ce qui déjà est un petit peu absurde quand on regarde concrètement les données, à savoir que finalement c'est l'être humain et les animaux d'élevage qui sont infiniment plus nombreux que les animaux sauvages chassés. Par contre, il faut s'intéresser en effet aux interactions entre les animaux sauvages et nous, et par exemple quand il y a des dégâts dans des cultures, dans des parcelles qui sont réelles, hein, il ne faut pas du tout le nier. Gérer en régulant, ça ne fonctionne pas, les dégâts continuent. Par contre, si on essaie de réfléchir à d'autres solutions pour éloigner les animaux, pour mettre des clôtures qui soient mieux adaptées que les clôtures actuelles, et puis éventuellement, si c'est nécessaire et si on le réfléchit, comment mettre en place, par exemple, des processus de stérilisation ponctuellement pour les sangliers. Mais ça, c'est des choses qui se réfléchissent sur le long terme avec des scientifiques de façon sérieuse, mais pour ça, il faut vouloir y réfléchir. Or, les chasseurs ne veulent pas du tout voir les choses sous cet angle, ils veulent continuer simplement à chasser.
Vous pensez que les espèces peuvent aussi s'auto-réguler ?
Ah bah, de façon naturelle, les espèces n'ont pas besoin de l'humain. Hein. Il faut se rappeler que nous, les humains, Homo sapiens, c'est arrivé alors que les autres espèces étaient pour la plupart déjà là, et qu'elles n'ont pas besoin de nous. Hein. C'est une vision même... très très étrange de se prendre quasiment pour une espèce semi-divine qui aurait à gérer la nature. La nature n'a pas besoin de l'être humain, clairement. Si les gens chassent, c'est parce qu'ils aiment chasser.
Pierre Rigaud, parlons un instant du loup, ce sera la dernière question. Il y a quelques semaines, des éleveurs se sont filmés cagoulés, s'appelant du front de libération du Champsaur et déclarant prendre les armes contre le loup. Plus tard, les syndicats d'exploitants ont remis en place la ferme de la colère et le mur du désespoir devant la préfecture des Hautes-Alpes, demandant que l'on autorise les tirs de loups dans les zones cœur de parc. Aujourd'hui, c'est le président du conseil départemental des Hautes-Alpes, Jean-Marie Bernard, qui demande à, et je le cite, « décimer le loup ». Le débat est en train véritablement de se radicaliser, il n'y a plus de communication.
Du cas du loup dans les écrins et dans les Hautes-Alpes de manière plus large, c'est surtout le problème des moutons, si je peux dire, parce que les agents des écrins, ils en ont ras-le-bol des éleveurs de moutons, de certains en tout cas, notamment ceux-là, les cagoulés. Les éleveurs de moutons, tout leur est payé, tout leur est dû. On leur héliporte des cabanes, on leur paye les clôtures, on leur paye le salaire des bergers, on leur paye les croquettes des chiens, les chiens, on leur paye tout. Et malgré ça, jusque dans le cœur des parcs nationaux, ils veulent abattre des loups, une espèce protégée. Alors qu'il y a 120 000 moutons dans le parc national des écrins et qu'il y a quelques loups qui se comptent sur les doigts de la main. Donc quand on en vient à vouloir éliminer le loup dans une zone cœur d'un parc national où on met 120 000 moutons, où on paye les éleveurs pour faire cette activité, pardon, mais l'extrémisme est totalement du côté de ces éleveurs-là qui veulent même pas cohabiter avec une poignée de loups alors qu'on leur offre tout.
Merci beaucoup Pierre Rigaud d'avoir été avec nous ce matin dans le 8h30 d'Alpe 1. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Pas de fusil dans la nature, les réponses aux chasseurs ». Merci.
Merci à vous.